Non. Les motions rendues publiques par la CGA sont longuement débattues en interne avant d'être adoptées. Rien n'étant gravé dans le marbre, cette motion, comme les autres, pourra être complétée et modifiée dans le temps. La CGA adopte les principes énumérés ci-dessous. Le respect de l'anonymat des personnes agressées vis-à-vis de l'extérieur de l'organisation, ainsi que la confidentialité des discussions internes. L'exclusion de notre organisation, groupe, locaux, réunions, activités et cortèges, des agresseurs ayant commis des viols, des violences conjugales, du harcèlement sexiste ou des agressions sexuelles en lien avec la personne ayant été agressée. Cette exclusion signifie pour nous le refus de travailler avec les mêmes agresseurs dans d'autres contextes politiques, réunions interorga, événements co-organisés. La dénonciation publique des agresseurs, tout en respectant les demandes des personnes agressées et, le cas échéant, leur anonymat. Il s'agit pour nous ici de faire une place privilégiée aux personnes agressées, trop souvent contraintes à se couper de leurs réseaux sociaux pour ne pas risquer de rencontrer leurs agresseurs. Cette pratique permet également de limiter l'accès des violeurs et des agresseurs à des espaces de socialisation qu'ils considèrent comme leur terrain de chasse. La dénonciation publique est également une alternative aux poursuites judiciaires si la personne agressée ne souhaite pas y avoir recours et peut être aussi menée parallèlement à un dépôt de plainte. La CGA prend acte des points suivants. Chaque situation bénéficiera d'un partage d'informations orales lors des conférences téléphonées ou des réunions de coordination, puis d'une discussion et d'un examen spécifique en réunion de coordination. Chaque situation sera traitée de la manière la plus adaptée possible, renvoi aux erreurs de l'organisation, au secrétariat de l'organisation ou à un groupe mandaté. Chaque dénonciation émanant de la CGA sera validée en réunion de coordination, écrite en lien avec l'agressé et diffusée plus ou moins largement en fonction des demandes de l'agressé. La CGA se donne les outils suivants. La formation en interne comme en externe via des textes, des débats, des campagnes d'affichage. Le soutien aux ateliers d'autodéfense féministe et aux espaces mis en place pour soutenir les personnes ayant subi un viol. La création d'une banque de ressources sur son site concernant ces questions. La communication publique sur les outils, principes et procédures mis en place, notamment en direction des organisations avec lesquelles travaille la CGA.
Donc voilà pour la notion. Voilà, c'était aussi pour mettre formellement la théorie avec la pratique. Enfin, du coup, cette pratique-là, on l'avait déjà avant. Hein, c'est déjà arrivé au sein de l'organisation, hein, qui est une expulsion pour ce genre de cas, que ce soit au niveau fédéral et puis d'abord dans les groupes aussi. Voilà, c'est vraiment pour mettre vraiment en lien. Voilà, on a une théorie.
Heureusement, ça arrivait plusieurs fois.
Voilà, plusieurs fois. On a une théorie et on n'hésite pas à mettre en pratique, même quand il s'agit de camarades entre guillemets. Donc voilà, je crois que c'est la
ouais, c'est ça, musicale. On va enchaîner avec la première pause musicale et du coup on va réécouter SOS, Anticapitaliste Collective, donc le groupe de rap sud-africain qu'on avait déjà écouté la semaine dernière, donc de l'album Freedom Warriors, et la chanson c'est My People. C'est parti.
Take control of your ghetto streets. Yo, okay. Namaske ke parlamente rundt der Spanish speaker. Der vil uhuva ngalo msindo we movement to the lands of anarchista. Umbala muno ngagamile mpumelelweni emnothweni ekunethweni izimvule nhluphekweni hobisane makhone neholelane emaqaleni. Kade sasimongoza kodwa sithilani sivuleli mhlawumbe ngaphumbizi akhu. Are on the black beat isihlukani so white than it that is asekasingakho school esijumbigazi so easy for my people even in the slums. We know 925. Just grab your grind and touch in a cool laces. Move on the 80s.
People, everything that you want to be from my people. All the struggles I'm facing from my people. My people in that ghetto. I was raised in the street by the people. Everything that you want to be from my people. All the struggles I'm facing from my people. My people in that ghetto.
You know we the products of the ghetto. Excellent soup when being is put on ghetto. He make up as fans was up. Sing no bandela won't. What do you do, Kaula Lunga Yang? Uwamba ngobusuku, bathu ngamoshang. Esikele uyile, uvuka ngonyezi. Kodwa kawuthola umsebenzi. Take a look outside, fully window. Batsha baphela, abantwana ngumlilo. Itek ngapha, bavali itek ngapha. Itek ngapha, ibangi stress baba.
Ça a coupé,
il y a eu
très
un
bizarre.
Souci sur la musique, on est désolé, ça s'est pas bien enchaîné sur la fin. Donc on est toujours sur Radio Cagnot 102.2 et c'est toujours Idées Noires, l'émission de la coordination des groupes anarchistes. On va enchaîner avec une première page de lutte sociale.
Allez, on va partir vers la capitale avec une maternité qui était en grève, du moins son personnel. C'est la maternité Port-Royal de l'hôpital Cochin. Les infirmières, infirmiers, aides-soignants, soignantes, pour dénoncer leurs conditions de travail, bah toujours, soit 18 personnes en lutte. Les futures mamans sont assurées quand même d'un service, malgré cette grève. Seul le travail administratif n'était pas assuré, selon la CGT. Alors le souci ici, bah on le retrouve toujours hein, dans les luttes en ce moment, c'est un manque de personnel, suppression de postes, et dénoncer également l'insécurité de fait pour les patientes, donc les futures mamans. Et la fatigue donc accumulée pour les personnels, les RTT non prises et revendication de deux postes immédiatement. Même motif, même punition, c'est à Saint-Victor-sur-Loire dans la Loire, tout bonnement. C'était le 20 mars avec une cinquantaine de salariés en grève à la clinique psy. C'était les soignants et les administratifs aussi ici, les agents d'entretien, cuisine, etc. Donc tout le monde dans le même bain. C'était 50 personnes, je l'ai dit, sur 80. Alors souci également ici, c'est que la direction, il y a un turnover perpétuel, ce qui n'engage pas évidemment les personnes à vouloir s'organiser. C'est un peu le merdier, quoi, on peut le dire carrément. Et puis bien sûr, les conditions de travail dans la foulée, ils exigent un 13e mois, des primes du dimanche. Ils dénoncent les primes du dimanche qui sont plutôt disparates. Ils exigent aussi c'est un peu étonnant, mais enfin, ils exigent un pouvoir de décision fiable et constant à l'encadrement. Bon, ça se comprend aussi un petit peu. Des contrats à durée déterminée et des personnels avaient été rappelés par la direction pour tout bonnement casser la grève. À Noyal-Pontivy, dans le Morbihan, c'est une grève de 3 jours chez Limpac Packaging. C'est du film plastique alimentaire pour l'obtention d'une augmentation. Ça a piétiné, bien sûr, dans les négociations. 3% pour les ouvriers, 2% pour la maîtrise. La grève a cédé sur les 1,3% pour les ouvriers et 0,9% pour la maîtrise. Un protocole de fin de conflit a été signé, sachant que les négociations qui ont été menées portaient sur des miettes accordées aux uns, aux unes et aux autres sur des mois du style 0,5 en août et plus tard, on verra, etc., etc. Argentan dans l'Orne, c'est une autre société qui fait dans le film plastique alimentaire également, et c'est pas du cinéma, je vous assure. C'est Amcor, donc le nom de la société. C'était le 21 mars pour une grève de 3 jours avec le syndicat EFO. Une manifestation sur la ville, dans la ville. Une montée également sur Paris, prévue par 40 personnes vers le siège de Amcor. Protestation ici contre une fermeture du site. Un PSE qui a été déposé à Direct, donc à la direction régionale des entreprises. Et comme la reprise n'est pas à l'ordre du jour, les salariés entendent négocier fermement les indemnités. Alors là encore une petite, quelque chose d'assez étonnant, c'est que pendant cette manifestation de ville, eh bien, les manifestants et manifestantes ont amené leurs enfants avec des petits panneaux du style « du boulot pour papa ». Bon, on ne sait pas ce qu'ils... Ils savent pas, les pauvres gosses, ce qui les attend plus tard. Bon, enfin bon. Montauban, maintenant, c'est dans le Tarn-et-Garonne, avec 10 salariés en colère et une grève chez l'héritier Gonzalez Transport. En plus court, ça fait LGT. C'est à Bressol, donc du côté de Montauban. C'est dans la banlieue de Montauban. C'était le 21 mars, avec une délocalisation programmée pour juillet. Pour aller finir à Toulouse, cette entreprise. Alors ici également, des indemnités sont exigées. 1 mois de salaire par année de présence pour couvrir les frais de déplacement ou en cas de licenciement économique. De fait, blocage de la direction sur les revendications. Et aussi donc un blocage qui avait été organisé par EFO, un blocage donc des entrées et sorties du site. À Beauvais dans l'Oise, c'est la CFDT là qui était sur le coup pour Corolis, c'est le transport urbain de la ville de Beauvais, qui dénonce donc la CFDT les dégradations récurrentes de travail et d'offres aussi aux usagers. Des accords régionaux à revoir, perte de salaire 200 euros, c'est la société Beauvaisis Mobilité qui est en cause, une vingtaine de chauffeurs sur 68 au début du mouvement, pour donc des conditions de travail dégradées depuis une réforme de 2016 qui touche à la fois les horaires et bien d'autres choses, puisqu'ils réclament également du matériel roulant pour dénoncer celui qui est actuellement en piteux état. Lutte et grève chez les salariés du ramassage des déchets ménagers et autres. Alors on dit, on les appelle peut-être un peu sans réfléchir des éboueurs ou agents de propreté urbaine, qui est plus dans le ton des qualifications aujourd'hui quand il s'agit de ces petits métiers dégueux. Comme par exemple les techniciennes de surface en ce qui concerne les femmes de ménage, etc. Donc après ce petit moment pédagogique, je vais en rajouter un petit bout quand même, puisque c'est un métier qui a été créé quand même par le préfet de Paris en 1883, qui s'appelait Bonhomme Poubelle. C'est lui donc qui a inventé les poubelles. Voilà. Et voilà, je voulais dire ça quand même pour préciser. Donc les éboueurs en question, ils étaient en grève à Grenoble avec 4 jours grévés au 24 mars. La métropole ne les entend pas. EFO est dans la lutte, qui dénonce donc le cassage de la grève avec des interventions des flics sur le site Atanor, donc à Grenoble. Puis ce site a été repris par les grévistes, puis aussi par une société privée, Pizzorno, pour ne pas la nommer, qui a repris aussi la casse de la grève. Plusieurs sites étaient bloqués le 21 mars. Alors ici, les revendications sont les salaires, pour les salaires, les embauches d'intérimaires et un suivi médical. Il y a un appel aux usagers à laisser leurs sacs devant les bâtiments de la collectivité. Toujours dans cette branche, donc c'est à Nantes également pour ce 27 mars, le fini parti. On en a parlé un petit peu ces dernières semaines. Le fini parti, là, ça veut dire qu'on finit vite le travail et on n'est plus vite parti, évidemment. Donc le fini parti qui sera interdit, qui sera jugé illégal donc à partir du 1er octobre 2017, selon la métropole et sa vice-présidente et les syndicats. La contestation porte sur la suppression de 8 tournées et donc 24 postes en moins. Et se joignent aussi à cela, revendication des questions de sécurité dans le travail. Idem à Marseille avec les flics qui ont demandé, qui ont été demandés par Gogo Gaudin, le maire de Marseille. Un blocage, il y a eu un blocage des bennes, 4 jours durant. La métropole casse le mouvement en utilisant de petits véhicules. Alors il y a un hic puisque le mouvement a été lancé par l'intersyndicale et la CGT. Enfin, cette intersyndicale était composée du SDU13, alors c'est le syndicat de je ne sais pas quoi, l'UNSA, la CFDT et un syndicat autonome. Toutefois, sans le syndicat majoritaire à Marseille, dans le domaine, c'est FO, ce qui a provoqué évidemment des tensions entre les agents, et même un chauffeur a été agressé. Par la suite, il y a eu un droit de retrait de ses collègues et tout le monde a été convoqué par l'administration. Alors ici, les revendications sont bien sûr les salaires, les conditions de travail dans le cadre évidemment du fini parti, des blocages pour appuyer aussi les revendications, évidemment, ça va de soi. La grève cassée, hein, enfin du moins des tentatives par des non-grévistes payés en heures supplémentaires et par des sociétés privées. Des blocages plus spécialisés étaient en projet, notamment à bloquer les centres de transfert de déchets ménagers, qui là verraient, c'est un peu plus sérieux, un blocage total donc des ramassages à Marseille. Voilà pour ce premier jet.
Eh bien merci, et moi je vais enchaîner rapidement sur deux autres petites brèves aussi en rapport avec la CGT. Alors déjà au marché de Rungis, on en avait parlé la semaine dernière, où les 105 travailleurs sans papier occupent toujours l'administration, donc depuis plus de 10 jours, ils ont commencé le jeudi 13 mars, donc ils occupent l'administration de la tour de la Semaris, administrateur du marché de Rungis. Le piquet de grève ne sera donc levé, selon leurs revendications, qu'avec la délivrance des documents employeurs nécessaires à la régularisation, ainsi que d'un récépissé temporaire émanant de la préfecture ouvrant la carte de séjour d'un an pour chacun de ces travailleurs. Donc on va suivre un peu ce qui se passe là-bas, je pense qu'on en reparlera la semaine prochaine, hein, voir si ça a avancé. Seconde petite brève, ce matin, si je ne me trompe pas, le compteur électrique du MEDEF démonté par des militants et militantes de la CGT Mines Énergie, à Montpellier, des militantes et militants de la CGT ont démonté le compteur électrique du MEDEF dans la nuit de lundi à mardi à Montpellier. Des actions de ce genre sont organisées tous les mardis à travers toute la France, avec comme nom les mardis de la colère. C'est ainsi que les salariés de la CGT, de l'énergie, des industries électriques et gazières ont baptisé les actions qu'ils organisent depuis janvier à travers toute la France. Ce mardi, ce sont ceux de Montpellier qui ont agi. Ils et elles ont démonté le compteur électrique du MEDEF dans la zone de Tournesy. Ils et elles ont également déposé les plaques d'immatriculation d'une 50aine de voitures de service dans le secteur de la Croix d'Argent. Une manière pour elles et eux de se faire entendre auprès de la direction nationale qui, selon la CGT, refuse de négocier. Le syndicat dénonce une déstructuration du service public. Il réclame le maintien des emplois et la revalorisation des salaires gelés depuis le début de l'année. S'ils ne sont pas entendus, ils menacent de couper le courant de manière ciblée dans les semaines qui viennent. Donc c'est des petites actions assez drôles hein, quand même, qui font plaisir à entendre.
J'espère qu'ils vont bien s'amuser. Et j'en rajoute une petite dernière, une victoire, mais vous irez voir sur Rebellion, il y a un article qui est paru aujourd'hui, là, c'est par rapport aux femmes de chambre de la Part City à Caluire. Du coup, elles avaient voté la grève pour dénoncer notamment les heures supplémentaires non payées depuis janvier 2017. Il y avait déjà eu un petit mouvement où elles avaient obtenu quelques trucs, mais du coup sans cela. Et donc là, le fait d'avoir menacé de faire grève, eh ben, en fait, ça allait très vite. Parce que le patron avait peur que ça se développe dans tous les autres hôtels du groupe. Et donc il a annoncé très rapidement un virement de plus de 4000 euros de salaire dû sur janvier-février 2017 pour les 8 salariés. Donc c'est une belle victoire, mais du coup, vu que ça gagne, elles vont pas s'arrêter là, a priori. Parce que du coup, à Marseille, ce qui avait été gagné, c'est après 15 jours de grève, le patron là-bas avait concédé une prime de panier de 8 euros par jour travaillé et la fin du paiement à la chambre. Et donc, du coup, elles se sont dit, pourquoi pas les gratter de ce côté-là aussi. Elles ont bien raison. Donc, on suivra ça aussi dans les semaines qui viennent. Donc voilà, on va passer à autre chose maintenant. Après quelques luttes sociales, on va passer du coup
violence policière. Donc du coup, vous avez peut-être dû l'entendre. Donc après le décès d'un quinquagénaire d'origine chinoise à son domicile dimanche soir, des manifestants se sont rassemblés devant le commissariat du 19e arrondissement de Paris et dénoncent une bavure policière. Mais pour la police, le scénario est tout autre. La victime a tenté d'agresser un agent de la BAC. Donc lundi soir, une centaine de personnes s'étaient rassemblées pour allumer des bougies à la mémoire de Li Shaoyo, devant le commissariat du 19e de Paris, et réclamer justice pour ce père de famille. Le quinquagénaire d'origine chinoise a été abattu dimanche soir par la BAC, intervenu à son domicile pour un différend familial. Le rassemblement s'est d'abord fait dans le calme, puis la situation a dégénéré vers 22h. Selon les manifestants rencontrés sur place, les forces de l'ordre ont tenté de disperser la foule avec des gaz lacrymogènes avant que ceux-ci ne répliquent par des jets de bouteilles en verre. Plus tard dans la soirée, plusieurs dizaines de personnes sont venues sur la place pour gonfler les rangs et faire opposition aux forces de l'ordre. Donc c'est une citation. Je n'étais pas là au rassemblement, mais un ami m'a prévenu, alors je suis venu de Bobigny. Donc le rassemblement se voulait pacifiste et demander la paix et la justice, explique Stéphane, donc un manifestant de 26 ans. Une voiture et plusieurs poubelles ont été incendiées. 35 personnes ont été interpellées. Selon la version de la famille, Liu Shaoyo, désolé, j'ai un peu de mal. Découpé du poisson dans sa cuisine, une paire de ciseaux à la main, lorsque les voisins ont appelé la police aux alentours de 20h pour signaler une altercation familiale. Ils disent avoir entendu des cris d'enfants, mais personne n'a crié dans l'appartement, explique l'avocat des proches, Calvin Job. Selon leur version, la BAC est intervenue au domicile du quinquagénaire. Ils auraient frappé à la porte sans s'annoncer. L'homme s'est alors placé derrière la porte. Il ne savait pas à qui qu'il avait affaire à la police, poursuit l'avocat. Les policiers seraient alors entrés en force, puis auraient tiré à une reprise sans sommation sur le père de famille, sa paire de ciseaux à la main. Les forces de l'ordre décrivent, elles, un tout autre scénario. Pour la police, la victime avait tenté de les agresser avec sa paire de ciseaux, ce qui justifiait le coup de feu. La mort de cet homme d'origine chinoise fait écho à un autre décès survenu fin août. Shaolin Zhang, un couturier domicilié à Albertville, a été agressé par trois personnes qui tentaient de lui voler un sac. Des manifestants avaient organisé, par les associations de Chinois de France, réclamé plus de sécurité. J'étais déjà là lors de la manifestation en septembre. On nous vole, on nous agresse, la police n'intervient pas. Et lorsqu'elle intervient, elle nous tue pour une histoire de voisinage, lance un riverain d'origine chinoise venu se recueillir.
Voilà, on suivra ce qui se passe, parce que du coup, il y avait encore du coup rassemblement hier qui s'est terminé tard avec encore gaz lacrymogène et compagnie pour les manifestants. Et donc, ça va être intéressant de voir un peu la réaction justement de l'État face à cette nouvelle mort due à la police.
Et Pékin aussi qui
demande des explications aussi. Donc, on va voir un petit peu comment ça se passe, parce que voilà, des morts dans les quartiers populaires, il y en a énormément. Et on sait que du coup, cette communauté est victime d'une part de racisme, parce qu'il y a des manifestations au mois de septembre, et d'autre part aussi de violences policières, comme toutes les minorités nationales dans ce pays. Et donc, du coup, on verra un petit peu comment ça se passe. On va suivre ça de près également.
Je crois qu'on avait encore un petit point avant la pause musicale.
Oui, donc rapidement, donc Antonin, donc ce militant qui a été accusé d'avoir brûlé la voiture de police, une voiture de police, donc la vidéo qui a fait un peu le tour de la France. Pour le moment de la travail, donc qui a été accusé. Donc après 10 mois de détention provisoire, Antonin, 22 ans, est sorti de prison. Donc le jeune homme a été libéré en fin de journée à Fleury-Mérogis, où il était incarcéré après une décision de la Cour d'appel de Paris. Le parquet de Paris avait fait appel à la décision du juge des libertés et de la détention d'un placement sous contrôle judiciaire pour la troisième fois. Cet étudiant en sociologie est suspecté d'avoir participé à l'incendie d'un véhicule de police où se trouvaient alors deux agents, en mai 2016 à Paris, donc pendant le mouvement de travail. Seul élément de preuve, un témoignage anonyme dont on apprendra par la suite qu'il émanait d'un homme de la préfecture de police de Paris. La mère d'Antonin, Geneviève B, du coup, se félicite de la décision de remise en liberté prononcée par la chambre d'instruction de la Cour d'appel de Paris. Enfin, on est parvenu à faire entendre la voix de l'État de droit et le fait que la détention provisoire ne peut s'appliquer à des gens indéfiniment. Toujours placé sous contrôle judiciaire et interdit séjour à Paris, Antonin va partir à l'île charmante de sa famille. Donc voilà des nouvelles très récentes, du coup, de ce militant. Arrêtez.
Ok, du coup on va enchaîner sur une deuxième petite pause musicale assez courte cette fois, on va essayer du moins, et cette fois-ci avec Stupéflip, à bas la hiérarchie.
Vous étiez, je vous cherche depuis une heure. Désolé mais j'étais encore au self, ils ont un très bon gratin dauphinois aujourd'hui.
Vous m'avez fait perdre une belle occasion de gagner un marché, et vous m'avez coûté de l'argent.
Allô ? Je sais pas ce qui me retient de vous foutre à la porte. Vous pouvez pas, désolé, je suis qu'un simple stagiaire, n'oubliez pas. C'est tout ce que vous trouvez à dire. Ouais. Allez vous faire foutre.
À bas la hiérarchie, pour tous les mecs qui sont dans les coins. La hiérarchie, pour tous ceux qui ont les mains moites. À bas la hiérarchie, pour tous les mecs qui sont dans les coins. La hiérarchie, pour tous ceux qui ont les mains moites. C'est ça, boss, boss, boss. Beaucoup, écrase-toi et mets ton orgueil au porte-manteau. Tout le monde y pense, tout le monde oublie. Personne se bat, tout le monde subit. Alors tu bosses 15 pompes sur un Macintosh. C'est moche, y'a le boss qui vénère comme un poche. Il crache dessus, tu stresses et l'angoisse.
Nous voilà de retour maintenant, c'était pas la peine de parler avant que j'ouvre le micro. On est toujours sur Radio Canu avec Idée Noire. Non, non, c'était pas encore en action.
Allez, on est toujours sur Idée Noire, donc l'émission des militantes et militants de la coordination des groupes anarchistes. Et on enchaîne avec un petit tour en Guyane.
Oui, un petit tour en Guyane. Alors, contrairement à ce que croit Macron, ce n'est pas une île, hein, c'est en Amérique du Sud.
Ah non. Et c'est rattaché à un continent. Ouais, c'est fou. Hein.
Même, un continent même, assez gros. Hein.
Et je vais apprendre un truc, il y a même deux Guyanes en fait. Et oui.
Du coup, s'il veut quelques cours, il n'hésite pas.
Il y a le Suriname entre les deux. Mais donc, on va juste revenir un peu là-dessus. Alors, pour les gens qui n'auraient pas suivi ce qui s'est passé depuis les dernières années, en Guyane, il y a eu de nombreux mouvements. Et depuis le 20 mars, il y a un mouvement social en Guyane. Hein, du coup, ça fait maintenant presque 10 jours. Et il y a la grève générale, depuis ce lundi, qui a été votée la semaine dernière donc, par l'UTG, hein, qui est une union syndicale qui regroupe 37 syndicats. Donc des syndicats de lutte dans différents secteurs, hein, public, privé, santé, éducation, etc. Et depuis ce jour-là, donc de nombreux barrages, des manifestations. La manifestation de cette semaine qui a ramené quand même plus de 12 000 personnes, selon la police.
Donc c'était historique, parce que même le préfet, enfin même la préfecture a dit oui. C'est dingue le nombre de personnes qu'il y avait dehors. Quoi.
Du coup, on peut.
250 000 habitants dans toute la Guyane.
Oui, du coup, on peut quand même dire, on peut quand même tabler sur un chiffre plus haut. Et donc la Guyane, dans la presse française, on va surtout parler de ça ce soir, on parlera peut-être plus tard quand le mouvement aura continué. Là-dessus, mais pour la presse française, c'est donc un département français d'outre-mer. Donc, euphémisation que c'est une colonie, hein, la Guyane, c'est une colonie. Alors, pour Jean-Luc Mélenchon, hein, on va pas taper que sur Macron, on va quand même taper sur les vrais gauchistes de la campagne électorale. C'est la France universelle, voilà. Donc, peut-être qu'il y a 60 ans, pour Jean-Luc Mélenchon, l'Algérie, c'était la France universelle.
Aussi.
Peut-être que Madagascar, c'était la France universelle. Peut-être que l'Indochine également. Du coup, remercions Jean-Luc Mélenchon pour. Ce bon mot progressiste, hein. Mais on va aussi parler de ce qui se passe un peu là-bas. Alors pour Bernard Cazeneuve, lui c'est un appel au calme. Donc pour les personnes qui auraient oublié qui était Bernard Cazeneuve, parce qu'on entend plus trop parler en ce moment, c'est donc toujours le premier ministre en France, hein,
qui était
ex-premier flic, qui fait toujours son boulot de flic, hein, en France comme en Guyane, c'est-à-dire qu'en Guyane c'est son boulot de flic, mais colonial, gestion coloniale, etc., etc. La plupart des gendarmes, ils font des missions en Guyane aussi pour être formés. Du coup, c'est vraiment là-bas où toute la police passe. Enfin, la gendarmerie, pardon. Et l'armée. Et donc, Bernard Cazeneuve, il s'est dit, hey, si je dépêchais une mission interministérielle pour régler ce souci, parce qu'évidemment, quand il y a 44% des familles qui vivent en dessous du seuil de pauvreté et 50% des jeunes qui sont au chômage, une mission interministérielle, ça a marché.
Ça va tout arranger.
Et les manifestants, ils ont dit, eh ben, que nenni, en fait, c'est encore du mépris de votre part. Emmener une mission interministérielle, c'est du mépris. Nous appeler au calme, c'est encore plus du mépris, c'est-à-dire d'une part, nous dire finalement, notre lutte, elle n'est pas légitime, et finalement, légitimer aussi les dominations desquelles ils sont victimes.
Parce que le pire, c'est qu'au départ, en plus, ils voulaient que les représentants syndicaux aillent en France pour négocier quelque chose. C'est-à-dire qu'ils ne voulaient même pas se déplacer, en fait. C'est-à-dire qu'ils voulaient envoyer du coup, des gens de Guyane du coup, en France. Donc voilà, maintenant, il veut envoyer cette mission interministérielle, et du coup, il n'en a envoyé que deux, je crois, hier ou aujourd'hui, je ne sais pas.
C'est arrivé avec Mayotte, ça.
Ouais, aussi, ouais.
Bah, la ministre de l'Outre-mer était avant en Guyane, à La Réunion, hein. Une autre colise qui, cette fois, est une île. Hein, pour,
c'est pour Macron.
Pour Macron, s'il nous écoute, on ne sait jamais. Peut-être que ses experts écoutent pour prendre des notes, ils ne savent pas ouvrir une page Wikipédia. Mais tout ça pour dire que le mépris hein, envers la population guyanaise qui est en lutte. Et on parlera aussi encore des médias qui, malgré la manifestation avec 12 000 personnes, du coup, selon la préfecture, hein, ou dans les images à télé, on voit qu'un fameux collectif, qui est le collectif des 500 frères, hein, qui réclame plus de sécurité, plus de gendarmes, l'état d'urgence, etc. etc.
C'est
etc.
chose trop bien.
Et donc finalement, si on les met en avant, et on ne met pas les autres qui quand même luttent. Ont des réclamations, des revendications, des luttes dans des différents secteurs, en crise, etc. Finalement, c'est peut-être un peu pour rassurer les Français de la métropole, hein, par les médias, en disant finalement, regardez, ils sont comme vous et nous, ils veulent plus de sécurité, attention aux terroristes, attention aux nombreux étrangers, parce que c'est un truc que le collectif 500 frères réclame, c'est qu'en Guyane, en fait, il y a beaucoup d'étrangers, il y a l'orpaillage, évidemment, le commerce de l'or et plein d'autres commerces. Hein. Et finalement, plus de sécuritaires, pour dire, vous voyez, finalement, ils veulent pas des choses si différentes de des choses qu'on voudrait vous imposer à vous, et leurs revendications sociales qui sont derrière par l'UTG, hein, c'est des syndicalistes, l'UTG qui est anciennement proche de la CGT, pour mettre derrière en disant, finalement, il ne se passe rien de bien intéressant en Guyane, à part qu'ils veulent plus de flics. Du coup, continuons là-dessus. Nous, ce qu'on peut souhaiter aux Guyanais, aux Guyanaises, c'est de continuer leur mouvement social et de s'organiser à la base comme ils le font et de refuser le mépris que leur offre le gouvernement français et l'État français.
Parce que le deuxième ministre qu'ils ont envoyé, il me semble, c'est le ministre de l'Intérieur, c'est ça le nouveau.
Exactement.
Le nouveau. Donc voilà, donc c'est juste pour la sécurité, donc pas pour tout le reste, pour le logement, pour l'éducation, pour la santé, enfin toutes les demandes qui sont à côté. Donc voilà.
Alors, ouais, alors il ne nous reste que 10 minutes, donc normalement on a un point anti-électoralisme avant.
Je vais faire très rapide,
avant le communiqué de.
Du collectif afroféministe, ouais. Donc c'est je vais faire assez rapidement. Donc c'est la brochure, mais on en fera un peu plus du coup la semaine prochaine. C'était la brochure qu'on a commencé à lire la semaine dernière. Là, pourquoi nous ne votons pas, quel anti-électoralisme et pour quelle société, qui avait été édité par le groupe de la CGA de Montpellier. La semaine dernière, je vous avais lu, donc c'était par rapport à des affirmations qu'on peut entendre, du coup, quand on dit qu'on ne vote pas, hein, toute la culpabilité qui peut être renvoyée, et le pourquoi les gens votaient. Donc, je vote car des gens sont morts pour obtenir ce droit, on l'a fait la semaine dernière. Idem pour je vote car je suis pour la démocratie, ou je vote pour être représenté. Et donc, du coup, ce que je vais vous faire ce soir, c'est je vote pour choisir qui est à la tête de l'État. La participation électorale repose sur la croyance que la couleur politique des élus peut jouer dans le sens de notre émancipation, dans l'amélioration de nos conditions de vie. Mais la politique n'est pas une question d'intention ou d'honnêteté, de discours plus ou moins radicaux. La couleur politique des gestionnaires des intérêts capitalistes a peu d'importance dès lors que ces intérêts fondamentaux ne sont pas remis en cause. Ils ne peuvent de toute façon pas l'être dans le cadre de l'État. Cette institution n'a rien de neutre. Elle est l'instrument du pouvoir au service d'une minorité contrôlant l'économie. Toutes les conquêtes sociales, on le rappelle, ont été arrachées à l'État et au capitalisme par la lutte. Et les politiciens n'ont fait au mieux que transcrire dans l'espace institutionnel le résultat d'un rapport de force, posture tactique pour légitimer leur appétit de pouvoir et s'assurer une rente électorale au nom de la défense des intérêts populaires. Une fois le rapport de force liquidé, ils s'empressent de dépecer ce qu'ils ont prétendu défendre. Donc voilà, et j'en fais un deuxième petit quand même, c'est parce que c'est le fameux qu'on entend beaucoup, 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 beaucoup en ce moment, c'est « Je vote pour barrer la route au Front National ». Toute la classe politique a participé à l'escalade sécuritaire, a pris part aux expulsions d'immigrés et a largement contribué à la fameuse lepénisation des esprits, des discours comme des pratiques. Et au bout d'un moment, il est logique de préférer l'original à la copie. Tous ceux qui sont au pouvoir renoncent à lutter contre les inégalités et sont condamnés à gérer le système. Cela passe par des pratiques racistes et sécuritaires. Les discours de l'extrême droite ont été intégrés dans la classe politique et ont gagné dans la société. Force est de constater que la voie électorale de la politique du vote le moins pire est une impasse qui conduit au recul idéologique dont nous sommes aujourd'hui les témoins. Pour rappel, en 2002, Le Pen est arrivée après les déceptions répétées de la gauche au pouvoir, et Sarkozy a été sur le porte-bagages de Chirac, élu à 82% en 2002. Aujourd'hui, en 2017, on voit ce qu'il en est. Le schéma se répète avec la fille Le Pen. Inlassablement, les médias et les classes dirigeantes refont le coup du vote pour barrer la route à l'extrême droite. On sait pourtant que ça ne marche pas. Le vote barrage participe à faire le lit du FN, tout comme le renoncement à changer de société et à mettre fin au capitalisme. Quand on pense que c'est en votant que les choses s'améliorent, on essaye un coup à droite, un coup à gauche, un coup à droite, un coup à gauche. Ça ne marche toujours pas, alors on essaye l'extrême droite. D'ailleurs, l'électoralisme n'a pas empêché les fascistes d'arriver au pouvoir. Hitler en 1933, Mussolini s'est appuyé aussi sur les élections. Enfin, si on suit la logique, tous sauf le FN, on se doit de voter soit pour les Républicains, dont certaines déclarations des unes et des uns et des autres n'ont rien à envier au FN, ou pour le PS, bonjour le choix de la démocratie. On pourra ajouter maintenant le choix Macron parce qu'il a percé depuis. L'extrême gauche et toutes les candidatures alternatives n'ont rien à dire aux abstentionnistes sur l'anti-vote FN dès lors qu'il et elle se présentent. Si les X millions de personnes qui ont voté contre Le Pen au second tour de 2002 ou pour éviter Sarkozy en 2007 et en 2012, et ceux et celles qui s'apprêtent à voter contre Marine Le Pen descendaient dans la rue, elles pourraient bien plus certainement faire valoir leur choix contre les politiques racistes, libérales et autoritaires. La progression du Front National est largement due au PS dans sa volonté d'arriver au pouvoir et à sa politique antisociale et aux mesures sécuritaires, racistes et contre l'immigration, reprenant le programme de l'extrême droite. Voter pour le moins pire, c'est entretenir un système qui perpétue les inégalités et qui rend de plus en plus audible le discours de l'extrême droite. Voter n'a jamais empêché l'extrême droite d'arriver au pouvoir. Seul un antifascisme social et populaire, vivant à travers nos luttes, est à même de construire une solidarité de classe suffisamment forte pour mettre en échec la progression de l'extrême droite. Donc voilà, puis je continuerai la semaine prochaine sur les quelques autres items qui restent dans la brochure.
Merci. Voilà, donc du coup, je vais enchaîner pour la fin avec un article alors, qui vient non pas d'un collectif afroféministe, en tout cas, je ne crois pas, mais c'est. Celles qui l'ont partagé sur Facebook, mais ça vient d'un site alors, qui s'appelle This is Africa, Mi. Je ne sais plus trop quoi. Enfin bref, du coup, qui sort des articles. Anticolonial et tout ça. Donc du coup là ça va être un article sur la francophonie, donc du coup j'en profite pour faire une petite dédicace à certains de nos amis gauchistes qui statent encore à voter Mélenchon ou pas, donc j'espère qu'ils vont nous écouter et nous attendre avec une bonne pizza une fois qu'on aura illuminé leurs esprits de notre politique anti-électoraliste. Donc voilà. Alors, dans un contexte de mondialisation où l'ancienne puissance impériale a perdu sa première place dans le soft power au profit des anglo-saxons, les anciennes colonies françaises sont celles qui font exister le français en dehors de la France. Ce n'est ni le Québec ni la Belgique qui permettent à la langue française d'être dans toutes les instances internationales, mais bien les pays d'Afrique et de la Caraïbe. Lors d'une conférence sur l'entrepreneuriat, un éminent conseiller politique français se réjouissait que le français devienne l'une des langues les plus parlées au monde grâce à la démographie africaine. Il a notamment mis en avant le potentiel immense que représentaient pour la France les contrats de marché public, concernant en particulier les centres d'appel avec des salariés très bon marché. C'est de cela dont il s'agit aussi, la domination culturelle est l'un des secteurs du capitalisme néolibéral. Je ne me suis jamais pensée comme francophone. De fait, cette appellation n'a de sens que dans les pays où il y a d'autres groupes linguistiques occidentaux en présence, comme les pays d'Afrique, qu'on découpe entre anglophones, francophones, lusophones. Ayant grandi en France, la nationalité française inclut de fait le français, vu qu'il semblerait que le français appartient à la France. C'est en France qu'on décide des révolutions grammaticales, en France où siège l'Académie française, la France encore qui déploie grâce à son réseau de lycées français et d'alliances françaises, la politique de rayonnement du français à l'étranger. De la même façon que j'habite la nationalité française, j'habite la langue française à la marge, dans ces recoins où elle est utilisée pour débusquer et démanteler les structures néocoloniales encore à l'œuvre. La francophonie, ce n'est pas tous les Français, ce n'est pas le français que je parle avec mes amis, celui forgé par les enfants de celles et ceux qui n'étaient pas censés rester ni être aussi nombreuses. Le français de la francophonie, c'est le français normatif, celui qui permet d'accumuler les diplômes, celui des rapports de l'ONU, de sélection littéraire. Ce n'est même pas le français des régions populaires de France. De sa tradition hyper centralisée et jacobine, la France a toujours refusé d'accorder la moindre place aux langues régionales. Le français de la francophonie est un français pensé pour être utilisé en tout lieu, en tout temps. Peut-être qu'un jour, le français de la francophonie aura son argot. Peut-être que devant le poids du nombre, on intégrera au français les expressions typiques des francophones d'Abidjan, de Casa ou de Port-au-Prince. Qui sait ? Peut-être qu'un jour, le français n'appartiendra plus à la France. En attendant ce jour, la francophonie n'est pas un espace neutre de simple communication. Il s'agit d'un système sous-entendu par des institutions et des systèmes de valeurs qui continuent à maintenir, reproduire et légitimer l'idée de la supériorité de la culture française et par prolongement occidentale. Il ne s'agit pas de débats d'idées hors sol, mais de réelles conséquences pour les pays anciennement colonisés, où la maîtrise du français sert de marqueur social, passant par la dévalorisation des langues locales. Dans le même temps, pour les enfants d'immigrants et d'immigrantes grandissant en France, l'État distille à travers l'éducation nationale le mépris des langues originaires d'Afrique ou de la Caraïbe, faisant passer le bilinguisme pour un facteur de risque pour les troubles de l'apprentissage dès lors qu'il ne s'agit pas d'une langue occidentale ou dominante économiquement, japonais ou chinois. Doit-on aussi rappeler que les plus précaires et marginalisés dans les pays dits francophones parlent très peu, voire pas du tout le français. Donc lorsqu'on parle d'espace francophone, on parle d'un espace de communication pour les personnes ayant assez de capital culturel pour intégrer ces espaces et non de toutes les populations vivant dans les pays dits francophones. Qu'il y ait des langues qui se soient élevées par la violence colonisatrice et ou capitaliste en langue internationale est un fait. Cet état de fait ne peut cependant dispenser un espace de lutte pour la justice globale, de réflexion sur les rapports et responsabilités tant des organisations que des activistes dans la consolidation des positions de domination culturelle. Décoloniser le monde, les systèmes sociaux, les cultures et les mouvements de justice sociale est un travail long, mais surtout exigeant. Notre responsabilité en tant que mouvement est de défier la normalisation de l'accumulation du pouvoir et des richesses, qu'elles soient quantifiables économiquement ou culturellement. Donc, du coup, ça a été écrit par Fania Noël, qui est une militante afroféministe. Elle s'engage dans l'organisation de projets de mobilisation et de réflexion autour du triptyque race-genre-classe avec une approche panafricaniste. Voilà, voilà.
Donc voilà, et puis pour finir, puisque la lumière du frigo nous autorise de dépasser de quelques minutes, on va vous passer un extrait sonore du coup par rapport à un mouvement dont on a parlé déjà dans les semaines précédentes sur les luttes dans les luttes sociales, mouvement d'un EHPAD du coup, donc on va entendre un petit peu l'interview d'une syndiquée CGT, voilà, okay. Je te laisse lancer.
Ok, ouais, c'est parti, j'envoie.
Alors, on entame notre cinquième semaine de grève. Jusqu'ici, on a fait un rassemblement devant l'EHPAD. Et puis, là, dernièrement, nous, on a défilé sur les rues de la Croix-Rousse pour revendiquer des meilleures conditions de travail et une prise en charge de la personne âgée dans la dignité, le remplacement des agents dès le premier jour d'arrêt maladie ou de congé, et des postes supplémentaires. Et bien en fait, ça se traduit par exemple, on va parler des infirmières, 90 personnes à qui il faut donner les médicaments et s'assurer de la prise dans de bonnes conditions, c'est très difficile. Elles sont dérangées par les coups de téléphone, par les sonnettes, par les familles qui les sollicitent pour avoir des nouvelles de leurs résidents. Les aides-soignantes, elles ont des toilettes de 15 minutes par résident, en sachant qu'on parle de toilettes, mais il faut surtout parler de prise en charge, parce qu'à partir du moment où on rentre dans une chambre, c'est là que commence la prise en charge, c'est pas juste le lavage, il faut les aider à se lever, préparer leur linge, les emmener, les faire passer peut-être aux toilettes, et après commence vraiment la toilette. Pour le soir, par exemple, nos aides-soignantes, elles ont 20 personnes à coucher en 45 minutes. Je ne sais pas si vous imaginez un petit peu le temps passé par résident. Les agents d'entretien ont 20 chambres à faire par jour, plutôt dans une matinée. Donc, et comme il y a des arrêts maladie ou des congés, ça peut aller jusqu'à 27 et on leur demande de survoler cette partie du travail. Et en retour, elles ont le mécontentement des usagers et des résidents, des familles qui se plaignent du manque d'hygiène, d'une mauvaise prise en charge. Un cuisinier, le matin, il a 130 repas à lui tout seul à préparer. Une auxiliaire de vie qui est censée être là pour aider une aide-soignante, et ben dans la même journée, on peut lui dire « ce matin, tu vas aller faire des soins avec l'aide-soignante ». Et puis, deux heures après, ben, tout compte fait, il manque quelqu'un pour le ménage, est-ce que tu peux aller au ménage? Voilà comment se traduit un peu les journées du personnel à l'EHPAD Marie-Jeanne Bertrand.
Et alors, vous revendiquez quoi?
Eh bien, des postes supplémentaires, donc un poste d'infirmier en plus, un poste de cuisinier le matin en plus, quatre auxiliaires de soins, et il me semble un agent d'entretien. Ben, on continue. Ben, là, mercredi, de 15h à 17h, on sera devant l'hôtel de ville, devant la maison de M. Colomb.
Donc voilà, ouais.
C'est Renaud encore, hein, et il est noir. Et ben là, on va commencer à vous
dire. On va clôturer
revoir,
l'émission.
On va aller manger nos pizzas et puis.
On
et
vous rappelle du coup les rendez-vous, les prochains rendez-vous à la Plume Noire. Donc il y a déjà tous les lundis soirs, il y a toujours les cours de langue à 18h30 au 8 rue Diderot. Les permanences mercredi 17h-19h, samedi 15h-19h. Et le concert, du coup, parce que les travaux à la Plume Noire sont enfin terminés. Voilà, ça datait depuis le mois de novembre, depuis l'agression fasciste. Et donc, du coup, on va organiser un petit concert pour la réouverture. Ce sera le vendredi 7 avril, voilà, à partir, enfin, dans la soirée, on vous donnera tout ça, plus de précisions la semaine prochaine, et donc ce sera avec le groupe Les Féminés, voilà, qui était déjà venu à la Plume en 2013 pour un concert de soutien à l'ouverture du local féministe du 7e, et donc du coup, elles reviennent pour le concert de réouverture, on les remercie.
Et je rajouterais juste un truc qu'on a un petit peu oublié de relancer ces derniers temps, du moins à la radio, c'est que la collecte de dons a repris à la Plume Noire. Donc si vous avez de la bouffe en type denrées non périssables, des fringues, des sacs de couchage, des chaussures, tout ce que vous voulez, vous pouvez nous les déposer sur les permanences le mercredi de 17 à 19h et le samedi de 15h à 19h. Et nous, on s'occupera de les
dispatcher.
C'est ça.
Donc voilà, bah, on va se quitter, on va vous laisser avec la lumière du frigo. Et puis on remercie pour ce petit temps supplémentaire du soir.
Allez,
salut,
bonne soirée
à tous.